vous écoutez le podcast Perte de poids et sérénité épisode 129, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est « L'espoir n'est pas une stratégie ». Alors effectivement, chaque semaine, je choisis toujours un thème. Donc c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'organisais l'enregistrement de mes podcasts différemment. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai... Il y a un hélicoptère qui est en train de passer. C'est super. Là, je ne l'avais pas prévu. Je ne sais pas si ça s'entend. On entend un petit peu quand même. Et alors ça, je ne peux rien contre les hélicos. Mais ça fait 4 fois que je réenregistre le podcast, donc tant pis, je vais rester comme ça. Et donc en fait, ce que je faisais avant, c'est que j'organisais l'enregistrement de mes podcasts en enregistrant 5, 6, 7, 8 podcasts d'un coup, et je les mettais en ligne comme cela. Et en fait, je me suis rendu compte, donc c'était super pratique parce qu'effectivement, je gagnais énormément de temps, mais je me souvenais plus déjà de ce que j'avais enregistré. Je perdais énormément en spontanéité. Alors que maintenant, y a un sujet qui me vient en tête dans la semaine et je dis « Oh ouais, ça me plaît ». Du coup, je le marque sur un petit post-it, un petit bout de papier. Et je le garde pour l'enregistrer. En général, j'enregistre le mardi ou le mercredi pour la nuit du mercredi au jeudi. Et donc là, cette semaine, j'avais trouvé effectivement cette phrase que j'aime bien me dire à moi-même, hein, qui s'appelle, qui est l'espoir n'est pas une stratégie. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à l'enregistrer parce que moi, parfois aussi, j'utilise l'espoir comme stratégie. Et quand on fait des podcasts comme ça sur le développement personnel, le grignotage émotionnel, etc., le rééquilibrage alimentaire, on n'est pas toujours tip-top sur nos sujets. Hein. C'est-à-dire que, moi aussi, effectivement, parfois, j'utilise l'espoir comme stratégie. Surtout dans des situations inconfortables où, effectivement, si je commence à réaliser un petit peu la situation dans laquelle je suis, ça peut générer du conflit. Et moi, j'aime pas trop le conflit. Je suis quelqu'un qui est quand même assez arrangement. Donc quand on est dans cette situation de conflit où effectivement, où on doit sortir de ses zones de confort, hein, eh bien, c'est pas toujours évident. Donc j'ai réfléchi. Je me suis dit, dans quelle situation effectivement on peut se dire ça va aller. Ça, les choses vont s'arranger ou la personne va changer, on a déjà les situations de couple où on se dit on rencontre quelqu'un, les mois passent, les années passent et puis ça va pas forcément très bien, donc on se dit peut-être que ça va changer un jour, mais malgré tout on reste avec cette personne et il n'y a pas grand chose qui change. Ça peut être également des situations professionnelles où effectivement le boulot ça nous plaît moyen, mais on se dit de toute façon c'est quand même une source de revenus stable, donc on reste quand même ça peut être également des relations amicales où la personne est sympa mais pas plus que ça, ou des moments elle est sympa puis parfois elle l'est moins, donc on se dit ça va peut-être s'arranger un jour, et puis on a l'espoir que ça s'arrange un jour, et puis ça ne s'arrange pas, la personne reste toujours pareil, en fait. Donc, c'est plutôt par rapport à l'espoir, je suis plus effectivement dans des situations inconfortables. Hein. Je ne parle pas ici, je n'évoque pas les situations dramatiques avec des maladies très graves, incurables, où effectivement on a l'espoir que de trouver un remède ou un traitement qui fasse que la personne n'est plus ce problème de maladie, hein, bien évidemment. Là, je suis plutôt dans les situations inconfortables qui ne sont pas, bien évidemment, dramatiques. Et donc, on peut effectivement décider de continuer comme ça, d'avoir de l'espoir. Mais ce qui est important, et je réfléchissais parce que du coup, je tournais un peu autour du pot, j'arrivais pas trop à éclaircir mes idées. Et j'espère que le podcast ne sera pas trop nébuleux. Donc je suis allée promener mon chien, Serge, mon golden, on est allé un peu dans la campagne, et du coup ça m'éclaircit toujours un petit peu les idées, et je me suis dit, bah, déjà, on ne se rend pas toujours compte, en fait, qu'on a de l'espoir par rapport à certaines situations, mais on fait un peu l'autruche, hein. Parfois, on sait que la situation n'est pas terrible, elle est un peu pourrie, mais on veut pas trop non plus s'en rendre compte, parce que ben on sort de nos zones de confort quand c'est comme ça, et on préfère temporiser, éviter le conflit ou éviter de se faire mal, hein, tout simplement en se rendant compte que la situation n'est franchement pas terrible. Donc on peut effectivement pas toujours effectivement réaliser que la situation n'est pas terrible. Ça, c'est déjà une première chose. Après, le fait effectivement d'avoir de l'espoir par rapport à certaines situations, je pense qu'il faut effectivement différencier plusieurs choses. Est-ce que la personne ou est-ce que la situation fait que cela nous blesse énormément moralement, ou est-ce que on est face à une situation où il y a beaucoup de malveillance, ou est-ce que la personne est malveillante? Donc ça, c'est vraiment important, hein, de se dire cela. Ou est-ce que la personne est faussement bienveillante avec nous, hein? Donc effectivement, là, on est dans une situation qui est plus compliquée. Parce qu'effectivement, s'il y a de la malveillance ou de la fausse bienveillance, là, on se rend compte que de ce fait, on aura dans notre... envie de ne pas voir la situation telle qu'elle est, et de fait d'avoir de l'espoir que ça s'arrange, on ne pose plus nos limites finalement, puisque on accepte que cette personne ou que cette situation génère de la malveillance vis-à-vis de nous. Donc ça, c'est un premier élément. La situation peut être également neutre, mais générer chez nous un mal-être et de l'espoir que ça s'arrange. Donc par exemple, si on est commercial dans une entreprise et que l'on ne supporte plus la pression par rapport aux ventes. Donc effectivement, si ça fait partie de notre métier, hein, de nos fonctions, d'être dans la vente, mais qu'à un moment, au bout de plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, on ne supporte plus cette pression. Donc effectivement, ça pourra générer du stress chez nous, mais également de l'espoir en se disant ça va peut-être un jour s'arranger, peut-être qu'un jour je vais mieux vivre la situation, etc. Mais c'est neutre, c'est-à-dire que ça fait partie de la fonction, donc il n'y a pas de malveillance bien évidemment par rapport à cela. Mais se poser la question, effectivement, est-ce qu'on a intérêt à rester dans cette fonction? Et on peut également être dans une situation où on a de l'espoir que ça s'arrange, mais la personne, malgré tout, est bienveillante. On peut être, par exemple, dans un couple où notre compagnon, notre compagne est très gentil vis-à-vis de nous, et donc cette personne est bienveillante, mais, par exemple, il peut ne plus y avoir d'amour dans ce couple, pour une raison X ou Y, et malgré tout, on a l'espoir qu'un jour ça s'arrange, et ça ne s'arrangera pas si on ne fait rien. Donc il y a plusieurs, effectivement, situations qui peuvent faire que... Est-ce qu'il y a des degrés, en fait, d'atteinte, finalement, par rapport à cette situation. Donc... quand je dis l'espoir n'est pas une stratégie... c'est-à-dire que j'incite les personnes qui écoutent ce podcast, et moi en premier, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des situations où je fais un petit peu l'autruche, bien évidemment, à passer à l'action. Et donc, passer à l'action, ça ne veut pas forcément dire passer du noir au blanc ou du blanc au noir, hein, bien évidemment. Et c'est là où, effectivement, il faut nuancer les prises de décision que l'on peut prendre par rapport à cela. Donc effectivement, si on espère que ça s'arrange, on a bien compris, et que l'on ne fait rien, effectivement, il ne va rien se passer. Parce que bah, les situations sont ce qu'elles sont, les gens sont ce qu'ils sont, et ça va rarement aller dans le bon sens. Donc, par exemple, si on a fait une rencontre, par exemple sur Tinder ou sur Mythic, et que la personne avait des traits de caractère qui nous dérangeaient profondément, sachant qu'au début d'une relation, on est effectivement dans la période lune de miel, si cette personne si on reste avec cette personne encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, cette personne risque d'avoir ces traits de caractère qui s'affirment de plus en plus, parce qu'on va quitter la zone lune de miel pour une zone de vie de tous les jours, et effectivement, on risque d'être de plus en plus agacé. Donc si ces traits de caractère-là ne sont pas acceptés dès le début, ça risque effectivement d'être compliqué par la suite. Donc, effectivement, est-ce qu'il est nécessaire de quitter une personne avec laquelle ça ne va pas ? Bien évidemment que non. Si effectivement il y a une base saine, une relation bienveillante et la bienveillance des deux côtés, on peut effectivement tenter de voir effectivement les bons côtés de la relation, essayer peut-être de changer un peu la relation et de la mettre dans un autre contexte, ou de se dire que effectivement, dans une relation amoureuse, j'entends, il y a toujours des hauts et des bas, et que effectivement la personne n'est pas parfaite et nous non plus ne le sommes pas, mais à partir du moment où on est dans la bienveillance et dans la gentillesse, on peut essayer de voir si on peut arranger les choses ou pas. Mais, de nouveau, ne pas rester dans l'espoir, parce qu'effectivement, on ne changera rien. On peut également décider de changer nos pensées. C'est-à-dire que si certains traits de caractère nous agacent, peut-être essayer de se dire qu'il y a certainement des choses chez nous qui agacent la personne, notre compagnon ou notre compagne, mais il a l'élégance ou elle a l'élégance de ne pas nous en parler. Et donc, de notre côté, on peut également peut-être faire cet effort. Mais essayer effectivement de changer nos pensées en fait par rapport à ça, et d'arriver finalement vers des pensées peut-être plus neutres ou plus positives par rapport à cela. Si effectivement on est dans des rapports où effectivement on est dans la neutralité, parce que par exemple ça peut faire partie d'une compétence comme le fait d'être commercial et de ne plus supporter la pression, on peut peut-être décider effectivement peut-être de changer de poste, et de ne plus avoir un poste de commercial, mais de ne pas espérer un jour mieux supporter la pression, parce qu'à un moment, si on ne supporte pas du tout la pression ou si on ne supporte plus la pression, je pense qu'effectivement il faut peut-être envisager de faire une reconversion et de changer de poste par rapport à cela, parce qu'on n'est pas là pour se faire du mal non plus. Et si par contre effectivement on est sur des relations mais qui sont générés par de la malveillance, ou de la fausse bienveillance, alors là, l'espoir, c'est pas du tout la bonne stratégie. Effectivement, il ne faut pas hésiter, quand on le peut bien évidemment, à entreprendre des changements pour faire en sorte de ne plus subir cela, finalement. Parce que l'espoir que la personne change, ou que la situation change, si nous sommes victimes finalement de malveillance, c'est mal barré, c'est mal barré. Donc voilà, mais tout d'abord effectivement le premier pas, c'est de prendre conscience de cela, et c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément envie d'y aller. La solution n'est pas effectivement de tout balancer, de tout changer comme cela, mais de constater, prendre conscience, de voir effectivement si c'est bienveillant ou malveillant, et puis d'essayer de trouver des solutions, des chemins de traverse, qui fassent que effectivement, si c'est malveillant, qu'on ne subisse plus cette situation quelle qu'elle soit. Voilà, j'espère que c'était clair. J'ai essayé d'éclaircir cela. Et si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. Vous pouvez toujours me contacter à Méthode Colibri. Donc méthode, mais sans le E accent aigu, bien évidemment. methodecolibri@gmail.com. J'aurai plaisir à répondre à vos mails. Si vous avez des remarques, des questions, des situations, etc., je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.